Welkom in nog een podcast van de BAM Sustainability Think Tank. Ik ben Joke Klaassen, co-captain van de Think Tank en uw gastvrouw voor deze podcast. Vandaag nemen we een kijkje in de wereld van marktonderzoek. Want bouwen op kennis is voor duurzaamheidsmarketeers heel belangrijk. En ik ga hierover in gesprek met Corinne Mostaert van Kantar. Corinne, misschien moet je jezelf even presenteren.
Bonjour Yuka et merci de m'avoir invité. Je suis Corinne, je suis responsable du département Innovation, Customer Experience and Sustainability chez Kantar. Et pourquoi être spécialisée dans la sustainability? Parce que pour moi, c'est très important de donner de l'espoir aux générations futures et parce que je suis persuadée que les marques peuvent jouer un rôle.
Super, welkom. Corinne, onlangs hebben jullie bij Kantar een volledige dag gewijd aan duurzaamheid. En tijdens die dag werd er heel duidelijk gezegd, eigenlijk moeten marketeers stoppen met naar hun klanten te kijken als consumenten, maar ze moeten naar die klanten kijken als mensen. Waarom doen jullie die aanbeveling?
Oui, mais en fait, résumer les personnes, les interlocuteurs, les clients a un seul rôle dans leur vie qui est de consommer est vraiment réducteur et finalement un modèle un peu dépassé et qui n'aide pas, je pense, les marketeers. En effet, on a observé un changement générationnel ces dernières années où précédemment, en fait, c'était l'individualisme finalement, ce qu'on consommait traduisait un peu notre statut, on peut penser au SUV. Mais maintenant, on observe un changement, on va vers un peu plus de communalisme, je n'ai pas de traduction de ce terme en français. Et en effet, c'est moi, c'est la société, enfin c'est moi dans la société, c'est nous. Et donc, résumer à juste moi et ma consommation est vraiment très réducteur. Et on se rend compte que les marques doivent vraiment avoir de l'empathie avec leurs interlocuteurs, les gens, les citoyens, etc., de façon à comprendre comment ils veulent s'engager avec la marque. Et on peut relever que les gens sont vraiment prêts à des nouveaux business models. Par exemple, on peut voir que 43% sont prêts à utiliser des packaging réutilisables que l'on peut remplir ou même s'engager vers l'achat de produits qui ont une plus longue vie. Donc, on n'y est pas encore et on parlera certainement par après aussi de comment traduire ça réellement en action. Mais on voit qu'on est ouvert pour d'autres modèles. Des modèles de réutilisation, des modèles de partage, des modèles de location, etc. Donc ça, c'est un point. C'est d'autres modèles. Mais ce n'est pas tout. En fait, en se rendant compte que les clients sont des vrais humains avec une diversité, une complexité, c'est super important. Et en fait, prendre en compte le fait que dans ce changement générationnel, on ne va plus vraiment seulement choisir la marque pour ce qu'elle délivre, mais on va aussi choisir la marque pour ses valeurs et ses comportements. Et donc, à nouveau, ne pas prendre en compte ce critère de choix-là que les clients ont, mais c'est aussi se couper de différentes opportunités. Donc, il y a aussi vraiment une attente de changement du rôle des marques dans la société. Par exemple, 64% nous disent qu'ils attendent que les marques s'engagent, les sociétés et les marques s'engagent pour une société plus durable, plus juste. Donc voilà, je dirais d'autres business models, on fait attention aux valeurs et aux comportements des marques et on s'attend à ce qu'elles s'engagent, qu'elles aient un autre rôle dans la société. Donc, il ne faut vraiment pas se limiter à un seul rôle de l'interlocuteur, du client qui est le consommateur, mais prendre le citoyen, l'activiste, le déconsommateur aussi en compte. Donc, il faut vraiment comprendre tous ces gens-là.
Ik ga het even heel kort samenvatten. Ik heb inderdaad gehoord dat je zegt van de mens beperken tot zijn rol van consument, zeker in een tijdperk waar we consumptie niet moeten stimuleren. maar net het anders gaan consumeren, dat dat veel te beperkend is. Hè? Dat het voor de mensen ook gaat om een manier van leven, een levenswijze die ze zich aanmeten. En dat die mensen dan vooral kijken naar merken, naar de waarden die merken brengen, de waardes van merken, het merkgedrag ook, en de maatschappelijke rol die merken opnemen. En dat je dus echt weg moet van die rol van wij bieden producten aan die jij consumeert en daar stopt onze relatie en dat we veel verder moeten gaan. Een mooie missie en ik hoop dat veel merken deze missie horen. Een tweede vraag die daar misschien bij aansluit. Ja, het blijft natuurlijk ook aan de basis ook wel een rol van een verkoopsrol. En vandaag is er ook een financiële crisis. En daardoor zien we wel dat het aannemen van een duurzamer gedrag, het kopen van duurzamere producten, dat alhoewel dat heel veel mensen zeggen van ik heb wel de wil om duurzamer te leven en duurzamer te consumeren, dat daar toch een say-do gap is tussen beiden. Jullie noemen dat bij Kantar een value action gap. Ja. En ik weet dat jullie ook onderzoek hebben gedaan naar ja, wat kan je doen als marketeer, als merk, als bedrijf om die gap te gaan, die kloof te gaan dichten. Jullie noemen dat fuels and frictions. Waar is er een wrijving en waar kunnen we eigenlijk de duurzame brandstof bieden om het beter te doen? Kan je daar wat tips geven van wat zijn de stappen die merken daarin kunnen ondernemen?
Oui, certainement, merci Hugo. En fait, on a pu identifier 8 grands éléments qui influencent les décisions. Et ce qui est important, c'est de prendre en compte ces 8 grands éléments et qu'est-ce que ça veut dire pour votre marque, pour votre nouvelle intervention, etc. Donc, ces 8 grands éléments, on peut tout d'abord classifier ce qui est vraiment le contexte. Et le contexte, c'est le contexte dans lequel on est. On peut être très pressé et pas avoir le temps de lire un éco-score. Un contexte où, en effet, on a un problème financier. Donc, le contexte est important. Et lié à ça, il y a aussi les habitudes. Il n'y a rien de plus compliqué à changer que des habitudes. Donc, il faut les comprendre, évidemment. Quelles sont les habitudes que l'on a actuellement ? On avait fait une étude sur le recyclage des meubles et des gros appareils électroménagers. Et évidemment, la première chose, on a en Belgique l'habitude d'aller au parc à conteneurs. Il faut le comprendre, c'est quelque chose d'extrêmement utile. Voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus ? Est-ce que c'est du upgrading, etc. Donc ça, c'est deux points, je dirais, de contexte un peu importants. Et puis évidemment, on est des consommateurs et tout le monde, des consommateurs ou des gens, et on a tous un côté émotionnel, évidemment. Donc il y a toutes les associations émotionnelles que l'on peut faire avec une catégorie, mais aussi avec les messages que l'on nous transfère. Donc évidemment, on s'est rendu compte qu'une communication qui va parler d'un engagement durable sera beaucoup plus engageante, aura beaucoup plus d'impact si elle délivre un message positif. Lié à ça, il y a les valeurs. On en a parlé juste avant. Les valeurs que communique la marque, on doit s'y retrouver aussi. Ça doit être pertinent pour soi. Et ça, c'était moi, mes émotions, mes valeurs. Et puis, il y a moi dans la société. Et évidemment, les personnes avec qui on vit, avec qui on travaille, tout ça a un impact aussi sur les décisions que l'on prend. Ça, c'était le côté un peu plus émotionnel, valeur. Et puis, à côté de ça, il y a le produit, l'expérience qu'on va délivrer. Un produit qui va être écologique mais qui sera moins performant ne va pas être un produit que l'on va choisir. Donc il y a le prix, la qualité, ce sont des éléments importants. Puis il y a la confiance qu'on va attribuer au message et au produit. Et finalement, on aurait pu le mettre à côté des habitudes et des facteurs situationnels, c'est l'effort cognitif que l'on doit faire. On va toujours aller vers une solution facile. Donc, il faut prendre en compte ces huit éléments et puis voir comment est-ce qu'on peut les adapter aux produits, au contexte, au message que l'on veut faire passer. Par exemple, le département de transport au UK était très malin dans son utilisation des données et de sa compréhension des gens. Et ils ont décidé de faire des plaques, les plaques de voiture. verte pour les véhicules électriques. Et donc, évidemment, c'est extrêmement visible et j'utilise extrêmement cet effet de pression sociale. Évidemment, voilà, vous différenciez un peu et vous faites partie d'un groupe en ayant une plaque de voiture verte. Donc, voilà, différents éléments à prendre en compte et à traduire. Donc, il faut vraiment reprendre ces lunettes, je dirais, pour analyser spécifiquement le produit, l'intervention que l'on veut faire. Et puis vraiment tenir en compte, ça doit être facile, ça doit être relevant et ça doit être, on dit rewarding, donc ça doit apporter quelque chose comme une récompense de faire cet acte.
Super. Heel veel informatie.
Ja.
Ik ga nog eens heel kort hebben. Het is heel belangrijk voor marketeers om eigenlijk die kennis op te bouwen van hun doelgroep, om te zorgen dat hun duurzame boodschap en hun duurzame producten echt wel tot engagement leiden. En ik heb gehoord dat jij hebt gezegd van, kijk naar de context van het contact dat je hebt en wat zich daar afspeelt. Begrijp de gewoontes en begrijp hoe dat je die gewoontes kan gaan aansturen of kan gaan bijsturen. En daar zegt men ook heel dikwijls dat je het niet alleen bij woorden moet houden als merk, maar dat je ook tools moet geven aan de mensen. Denk na over de emotionele associaties en hoe kan je tot engagement komen. Kom vooral met een positieve boodschap. Denk na over de waarde van je merk en van de mensen. Je hebt ook gesproken over het product en de productervaring, waar prijs en kwaliteit heel belangrijk zijn. Prijs was ik onlangs nog heel ontsteld om te horen dat als je kijkt naar de meerkost om een product te verduurzamen ten opzichte van de premiumization van de prijs die duurzame merken doorvoeren, ja, zo gaan we het niet halen. Hè. Het gaat over een prijsverhoging van 2-4%, maar de prijsstijging naar de consument toe is 70-80%.
Ja.
We mogen niet op die manier met duurzaamheid omspringen, want dan gaan we het gewoon nooit mainstream krijgen en zal het duurzaamheid voor de happy few zijn. Dus heel belangrijk. En dan om te eindigen heb je ook gesproken over, ja, zorg dat je het vertrouwen kan winnen. En denk na over gemak. Het moet gemakkelijk zijn om tot bij die duurzame proposities te komen. En dan sprak je ook nog over relevantie en sociale druk. En sociale druk, heel belangrijk, het werkt. Wij zijn allemaal mensen, een beetje kuddebeesten toch wel. Dus het behoren tot groepen, belonging is een heel sterke psychologische driver van menselijk gedrag. Dus als je dat allemaal optelt en daar slim mee omgaat, dan gaan we impact kunnen hebben. Je hebt dit allemaal benoemd, Corinne, en dat is super interessant. Als je al deze kennis nu vertaalt naar campagnes, heb je daar ook tips van hoe moeten we als merk, als marketeer dan dit gaan vertalen in de campagnes die we als merken hebben?
Oui, en effet. Et je dirais peut-être la toute première chose qui est extrêmement importante, c'est de déterminer mais quelles sont les problématiques les plus importantes pour la catégorie et pour l'entreprise et pour la marque. Quel impact vous avez sur l'environnement, sur la société? Parce qu'en effet, du greenwashing, c'est de ne pas adresser les réels problèmes que vous causez. Donc ça, c'est la première chose. Et elle va déterminer l'authenticité. L'authenticité et la sincérité, c'est pas uniquement ça. C'est aussi, en effet, être en ligne avec votre marque, ce que veut dire la marque, ce qu'elle veut apporter dans la vie des gens. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier, c'est le pilier de l'authenticité ou de la sincérité. Le deuxième pilier, je dirais, c'est vraiment parler aux gens des problèmes qui les concernent. Évidemment, la problématique de la crise climatique, la problématique environnementale, etc., c'est extrêmement compliqué à comprendre parce que c'est tout est corrélé, ce que l'on fait d'un côté a un impact sur le reste, etc. Et nous, quand on travaille avec des clients et qu'on compare leur assessment de leurs plus gros risques avec ce que le grand public comprend actuellement, on voit aussi qu'il y a une différence là. Donc, il faut pouvoir aussi jouer sur, je dirais, les bonnes émotions dans le sens où on va délivrer un message relevant. Donc, il faut vraiment comprendre ce que finalement le public auquel on s'adresse comprend. Donc, ça, c'est le deuxième point. Un troisième point, je dirais, c'est vraiment être constructif. Il faut apporter des solutions. Laisser les personnes avec une grande question, voilà, le message ne va pas rester. Et en ligne aussi avec ce côté constructif, nous avons analysé différentes campagnes et ce que nous faisons, c'est regarder l'engagement qu'elles délivrent à la fin. Donc, est-ce que vraiment on peut prédire que les gens vont suivre cette recommandation ou switcher vers ce business model, etc. Et en fait, les campagnes les plus engageantes sont aussi celles qui sont optimistes. Donc, laisser les personnes un peu déprimées, finalement, voilà, ça crée une barrière, je dirais, dans le fait que on va suivre la marque sur ce chemin-là. Et finalement aussi, finalement, on n'a pas vraiment envie d'entendre des messages forts, moralisateurs, etc. Donc, de l'empathie par rapport à ce que l'on fait actuellement est important. Donc, voilà. Pour résumer, je crois que c'est vraiment la sincérité et l'authenticité, être relevant, être constructif, faire attention au tone of voice, avoir un message positif et finalement quelque chose dans lequel on peut se retrouver.
Ok, heel handige tips. Ik ga ze nog even in het Nederlands samenvatten. Dan zijn we echt op zijn Belgisch bezig. Je hebt inderdaad gezegd, als we met campagnes aan de slag gaan, zijn er drie grote zaken die je in je achterhoofd moet houden. Om te beginnen, wees je bewust van de uitdagingen van jouw categorie en waar jij als merk echt impact kan gaan hebben. En ga daar heel authentiek en eerlijk mee om en vermijd in godsnaam greenwashing. Want met greenwashing ga je niet alleen schade berokkenen voor je eigen merk, maar eigenlijk voor alle merken die rond duurzaamheid werken, want je gaat het vertrouwen van de consument daardoor ondermijnen, van de mensen ondermijnen. Ten tweede, praat in je campagnes over relevante thema's, thema's die relevant zijn voor de mensen en doe het ook in een taal die zij begrijpen, zodanig dat ze echt je boodschap kunnen binnennemen. En ten derde, communiceer rond oplossingen en met een optimistische tone of voice en beperk je niet alleen tot een soort van reclameachtige, moraalridderlijke campagne. Want daar heeft eigenlijk niemand iets aan. Heel, heel relevante tips. Dank je wel daarvoor. Laten we dan even naar een volgende grote uitdaging gaan. Dat is, we hebben het daarnet al even gehad over welke stappen moet je allemaal nemen en welke stappen neem je beter niet. Maar het grote doel moet toch echt wel zijn, vandaag hebben we een gigantische piek in duurzaamheidscampagnes en in duurzaamheidsinitiatieven. Maar eigenlijk moet een duurzame aanpak moet het Olympisch minimum zijn en moet mainstream worden. We moeten de grote massa gaan bereiken. En als je dat als merk wil doen, kan je daar ook, heb je daar tips, heb je daar inzichten die je met de luisteraars kan delen?
Oui. En effet, tu as déjà abordé, Jo, que le prix. Donc ça, c'est un fait clair que c'est une des principales barrières. Donc, comment revoir les business models de façon à ce que ce soit un prix abordable. Donc, en effet, un modèle où on peut réutiliser, upgrader, etc. Un produit qu'on pourrait utiliser plus longtemps, on sera peut-être d'accord de payer un petit premium pour autant qu'il dure plus longtemps. Donc, il faut revoir un peu les business models pour rendre cette consommation durable possible. Le deuxième point, en effet, on ne peut pas s'adresser qu'aux personnes qui sont extrêmement convaincues, qui cherchent les solutions les plus durables, qui sont très informées. Donc, il faut pouvoir rendre, comme tu le dis, Yoke, les choix durables mainstream. Et pour ça, c'est finalement se référer à ce qu'on a discuté précédemment, c'est bien comprendre les fuels and frictions et rendre ces solutions faciles, accessibles, pertinentes et apporter un sentiment de ah, je fais quelque chose de bien aussi, que ce soit un peu récompensant. Et en disant ça, je pense toujours à un exemple très simple, mais qui date quand même déjà de quelques années, quand on apportait les contenants en verre au parc à conteneurs près de chez nous. Et nous ont donné un lèche-plat, donc le petit outil avec du caoutchouc au bout pour racler très bien, enfin pour très bien pouvoir racler les différents contenants. Et dessus, il était noté « manger sans gaspiller ». Et évidemment, le but était que chacun nettoie son bocal afin qu'il puisse être recyclé de façon plus facile. Et j'ai trouvé je l'ai encore et chaque fois que je l'utilise, ben, je me sens bien. Donc, je trouve que c'était vraiment une solution qui avait tout. La facilité, c'est super pratique. C'était relevant parce qu'en effet, ce n'est pas évident de nettoyer un bocal en verre avec les bosses comme ça. Et puis, ben, c'est récompensant. Donc, je trouvais que voilà, c'était une façon super intéressante d'avoir fait quelque chose, une toute petite action, mais qui, je pense, non seulement conscientise, il y a le message tous les jours, mais en plus, c'est pratique. Donc ça, c'est un des points en plus de revoir les business models pour les prix. Mais on le sent quand on donne ces exemples, ce qui est super important, c'est de rendre l'action désirable. L'expérience est importante. J'ai récemment écrit un article sur l'expérience et la relation au client. Et c'est vrai que si on veut mettre au point un comportement durable, comme par exemple prendre les transports en commun, et que quand vous prenez le train, très fréquemment, on vous dit ben, « on a 4 wagons au lieu de 8, veuillez nous en excuser ben, », on n'a pas envie. Et si, voilà, on sera peut-être plus tenté à prendre la voiture que le train. Donc, rendez l'expérience désirable. Et puis, ben, en se référant au tout départ de notre conversation, ben, on a parlé de la diversité, de la complexité des humains. Et à nouveau, une solution ne sera pas forcément celle qui convient à un autre en fonction de ses valeurs, etc. Donc, s'investir dans des user research, c'est important pour comprendre cette diversité. Mais aussi, la diversité de vos employés, impliquer tout le monde dans cette transformation durable. Ça ne peut pas rester le fait d'une seule équipe. Déjà, si c'est transféré au sein de la société à tout le monde et que tout le monde participe, mais voilà, c'est aussi une façon de rendre la transformation durable mainstream. Tout le monde est en fait en charge. Donc, si je peux résumer, il y a 3 points. Tout d'abord, à nouveau, comprendre les fuels and frictions, le business model des prix, rendre l'action désirable et puis bien comprendre la diversité du public.
Ok, super. Ik ga het inderdaad ook nog eens even samenvatten. Ik ben zelf ik ben een boek aan het schrijven. Het is nog heel embryonaal. Maar wat ik heel graag hoor in wat jij zegt, is... ik ben heel erg bezig met impact wat ik noem from a drop to a ripple. Hè, van een druppel naar een golfje. En ik hoor heel veel van mijn overtuiging ook in wat jij zegt. Hè. Je moet zorgen dat het niet alleen een druppeltje is op een hete plaat, maar dat je de tools en de ervaring aanbiedt, waardoor dat je impact eigenlijk als een golfje zich gaat verspreiden. En dat begint natuurlijk, zoals je zegt, bij de prijs. Hè. Maar ik denk ook dat we allemaal moeten leren om niet naar de prijs als een naakt gegeven te kijken. Het is niet gewoon een prijs, het is een prijs met daar tegenover een waarde. En die waarde hangt inderdaad samen met, ja, wat is de ervaring dat ik hiervan krijg? Dat kan het zijn. Of wat is de impact die ik als mens heb door deze prijs te betalen? Ik denk dat we daar echt heel goed mee moeten bezig zijn. En je zei ook, hè, niet alleen je richten tot de overtuigde mensen. Want dat is eigenlijk de gemakkelijkste weg. Nee, ga naar die diversiteit van je doelgroep. Ken die diversiteit en zorg dat je iedereen meeneemt op je pad. Ook je interne stakeholders. Zodanig dat het gedragen wordt door de massa. En ik denk dat dat echt super interessant is, dat je die massa ook meekrijgt door hen een goed gevoel te geven over de ervaring die ze hebben en zorg ook dat dat een goede ervaring is. Je haalt even het publieke transport aan, het openbaar transport, sorry, zoals de trein, ja, waar een slechte ervaring misschien dat duurzame gedrag niet gaat stimuleren. En we komen al aan onze laatste vraag, Corinne. Ik kan mij best inbeelden dat ondernemers en marketeers die naar deze podcast luisteren, eigenlijk luisteren omdat ze antwoorden zoeken. En zoals je daarnet al zei, duurzaamheid is een heel breed speelveld. Alles is gecorreleerd, alles haakt in elkaar. Je verlegt één steentje en er komen er vier andere bloot te liggen. Dus het is een zeer complex proces. Mm-hmm. En wat ik even nog aan jou wou vragen, jullie doen bij Kantar heel veel onderzoek hiernaar. Jullie zijn ook niet de enige op de markt dat dat doen. Maar de merken, de bedrijven, de marketeers die bij jullie komen aankloppen, wat zijn de vragen waar zij mee zitten? En wat zijn de struggles die zij hebben? Want ik kan mij best inbeelden dat als ik naar deze podcast zou luisteren, dat het mij wel zou helpen om te weten, ik ben niet de enige die zoekende is. En ik ben niet de enige die misschien niet de antwoorden kent, maar zelfs misschien niet de vragen kent. Dus kan je even delen waarmee marketeers en bedrijven bij jullie komen aankloppen?
Oui. Des questions les plus fréquentes que nous recevons, c'est un peu quelle est ma license to operate? Quel est le territoire sur lequel, en effet, je peux être sincère avec ma marque et éviter le greenwashing? Et donc, souvent, l'assessment de l'évaluation des principaux risques a été fait par l'équipe Sustainability. Et puis, à partir de ça, mais comment amplifier ce que l'entreprise est déjà occupée à faire en l'apportant au niveau de la marque et l'amplifier pour en effet avoir un effet boule de neige, entre guillemets, via les clients, les gens, les consommateurs, etc. Donc ça, c'est la première grande question, c'est comment définir ce territoire sur lequel on aura de la crédibilité, de la sincérité, on sera meaningful, etc. Et puis, une fois que ce territoire a été défini, mais on l'a vu, il y a toutes ces fuels and frictions. Voilà, ce que je vais développer, mais comment est-ce que je vais pouvoir l'apporter auprès de mes clients, et ça peut être des clients B2B aussi, auprès de mes clients B2C, etc. Donc, ça va être vraiment de définir ces interventions, ces actions, comment guider le sustainability by design, tout en faisant en sorte que ce sera adopté au bout du compte. Donc, c'est tout la compréhension du behavior change. Et puis, évidemment, nous n'entrons pas dans le design exact des produits, mais au fur et à mesure, nous recevons aussi des questions. Ben voilà, on a défini tel grande idée, où on a défini tel positionnement, est-ce qu'on peut retourner vers le public pour évaluer si on va dans la bonne direction? Donc, c'est aussi un processus, je pense, test-learn-test, qui est important. Donc, on va les aider sur ce point-là. Et puis, en effet, lors du développement des campagnes de lancement, ben, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce que le message est engageant? Est-ce qu'on aura de l'impact?
Ok. Dus eigenlijk als ik het samenvat, wat ik hoor is dat merken en marketeers bij jullie komen om eigenlijk te weten wat is het terrein dat ik met mijn merk kan innemen, wetende dat er al een basis rond of een duurzaamheidsstrategie ligt, maar hoe vertaal ik die naar mijn merkpositionering en naar alle marketingactiviteiten die ik onderneem. Tweede is de fuels and frictions waar we het al over hebben gehad. Hè, van hoe kan ik die kennen en hoe kan ik zorgen dat ik maximaal de adoptie van mijn merk, mijn verhaal, mijn producten ga realiseren. En daar spreken we inderdaad ook over die gedragsverandering die moet teweeggebracht worden. En het derde doet mij heel fel denken aan service design. Dat is eigenlijk van het moment dat er dan bepaalde realisaties zijn, als er design is gebeurd, producten, propositie, van even terug die check te gaan doen. Van hebben we het hier nu juist gedaan? Hebben we het goed geïnterpreteerd? Om dan nog even te kunnen bijsturen. Ik heb daar misschien nog een laatste vraag over en die stel ik jou een beetje onverwachts. Dat is, hoe ga je om? We zitten eigenlijk in een tijdperk waar de consument het zelf, de mens, het zelf ook niet meer weet. Hè? En waar de inertie van mensen eigenlijk ook een rem is op. Hè? We gaan echt wel op een andere manier moeten gaan leven. We gaan uit onze comfortzone moeten komen. Er komen heel veel grote veranderingen aan. Hoe ga je in marktonderzoek om met een doelgroep die het mogelijk zelf ook niet weet? En hoe ga je dan eigenlijk die lijn trekken tussen het leadership dat merken moeten opnemen en waar eigenlijk merken het pad moeten effenen en merken voorsprong moeten nemen op de mensen, maar je toch eigenlijk ook naar die mensen moet luisteren? Want ik denk dat merken echt wel naar een proactieve attitude moeten gaan en geen reactieve. Dus hoe ga je daarmee om? Hè? Je hebt wel de stem van mensen nodig om die relevantie te kennen, maar eigenlijk moet je ook het pad creëren dat zij moeten bewandelen. Hoe ga je daarmee om in marktonderzoek?
À nouveau, c'est people and context. Donc c'est en observant, en écoutant quelles sont les habitudes, quelles sont les valeurs, etc., qui sont importantes dans le cadre de cette intervention spécifique, dans le comportement que l'on veut mettre en évidence et que l'on veut susciter, en fait. C'est vraiment de l'observation. Et de l'observation qui peut venir vraiment de différentes sources, hein, de l'observation réelle, écouter des histoires. On aime bien lancer un groupe de discussion où on écoute juste les histoires. Et à partir de là, nous reviennent vraiment les choses importantes qui peuvent être des motivations ou qui peuvent être des barrières. Et puis, ça peut être prendre en compte, par exemple, des surges d'État. Et à partir de là, c'est pouvoir créer des buckets de ces besoins et de ces tensions qui sont alors utilisés en workshop avec les équipes innovation ou les équipes brand pour définir, en effet, sur base de ça, quel est le rôle de leader que l'on veut jouer.
Ok. Dus het is inderdaad echt wel de motivatie van mensen kennen, maar ook weten van wat stimuleert hen, wat houdt hen tegen en daarop te gaan werken. Oké. Corinne, ongelooflijk, ongelooflijk dik dank u voor al jouw kennis die je met ons gedeeld hebt. En beste mensen, de luisteraars, mochten jullie nog meer hierover willen weten, dan kan ik u twee tips geven om te eindigen. Een eerste is dat de leden van de Sustainability Think Tank, en het zijn er heel wat, maar enkele daarvan, hebben een green paper geschreven. Dat kan u downloaden op marketing.be. Er zijn ook nog vier andere duurzaamheidspodcasts. Die gaan over leadership, die gaan over een heel aantal verschillende topics. Ook deze vindt u op marketing.be. En u zal ze zeker ook tegenkomen op onder andere LinkedIn. Maar beluister ze zeker. En dan wensen wij jullie allemaal heel veel succes in het verduurzamen van onze business. Want marketeers kunnen echt wel een heel belangrijke rol hierin spelen. Bedankt voor het luisteren. Un tout grand merci. En tot de volgende keer. Dag.